pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
La scène se passe dimanche matin au Centre Pompidou à Paris, ce dimanche le 5 juin. Il est 11h, l'heure de la messe. L'événement qui se déroule sous nos yeux, aussi modeste soit-il, est tout aussi cathartique. Il n'est pas non plus en lien avec l'Église, mais ce sont des liaisons dangereuses. Emmanuel Laurentin, que certains surnomment d'ailleurs Frère Emmanuel, et que les auditeurs de France Culture connaissent bien, est assis ce matin-là avec Marie Desplechin, écrivain qu'on ne présente plus, et Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France. Ils sont assis sur de hauts tabourets, appuyés à une grande table en fer à cheval, aménagée pour l'occasion, et font face à un public attentif. Ils participent tous les trois au week-end de la création et des idées imaginé par France Culture et le Centre Pompidou. Ensemble, ils se demandent à quoi ça sert de raconter des histoires, pourquoi ils font ça, raconter la vie des autres. Pendant qu'ils parlent ainsi, trois de ces autres se glissent à côté d'eux, visiblement nerveux. Ils restent silencieux et écoutent. Aucun des trois n'a jamais pris la parole en public pour raconter sa vie. Le premier est venu de Lyon avec sa femme. Il s'apprête à dire devant tout le monde une histoire qui l'a tue pendant 33 ans. Le second est une célébrité sportive qui a décidé de prendre des risques en racontant un épisode troublant de sa jeunesse, un moment de lâcheté peut-être, ou de renoncement. La troisième est une jeune médecin, une brindille tout en noir, concentrée, grave. Elle sait que dans l'histoire qu'elle va dire, elle n'a pas le beau rôle. Quand la conversation des trois premiers prend fin, ils se lèvent alors tour à tour et s'avancent vers un grand micro sur pied. Ils restent là, tout seuls, plantés avec leur histoire. Ils se lancent, hésitent un peu, oublient un instant ce qu'ils devaient dire, cherchent Delphine Saltel du regard qui les a préparés à tout ça. Et puis c'est parti, ils y vont, y plongent sans phare ni honte, déroulent les faits et vont jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient dire en public ce jour-là. À voir dans l'audience, les yeux rivés sur eux, les larmes coulées, les visages émus, tendus, on voit qu'au minimum, ils sont écoutés, que quelque chose passe, et peut-être même se passe. Il est 11h, c'est dimanche, il n'y a pas plus d'une cinquantaine de personnes, ce n'est pas non plus le Stade de France. Mais quand ils ont fini, une fois qu'ils ont osé et que c'est passé, qu'ils ont déposé leur petit ou leur grand fardeau, qu'ils s'en sont débarrassés, qu'ils l'ont refilé, alors on se dit qu'un tout petit peu d'humanité est passé, de la main à la main, ou en mode bouche à bouche, comme vous pourrez l'entendre, jusqu'à 14h, dans les pieds sur terre sur France Culture, dans ces trois histoires recueillies par Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. En 1978, mes parents m'ont inscrit dans une troupe scout, le groupe Saint-Luc. J'avais 9 ans. Tous les week-ends, on se retrouvait, on participait à des activités, des ateliers, des sorties, des randonnées. On apprenait la vie en collectivité et on se faisait des amis pour la vie. Le prêtre qui encadrait cette troupe scout s'appelait Bernard Prénat. C'était un homme qui imposait le respect. Et pour nous, jeunes, en tant qu'adultes, que chefs, que prêtres, on le craignait. En 1979, quelques mois après mon arrivée dans cette troupe, il est venu me demander de le suivre au troisième étage de l'église de l'époque, là où se trouvait son bureau, dans une salle où étaient entreposés tous les costumes qui servaient aux différents spectacles de la paroisse. C'est là que j'ai subi ma première agression sexuelle. Pendant 3 ans, jusqu'en 1982, très régulièrement, pendant les réunions du samedi d'après-midi, il venait m'interrompre dans mes activités de groupe et me demandait de l'accompagner dans cette salle. À chaque fois, je le suivais docilement. Évidemment, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais incapable de mettre des mots sur ce qu'il était en train de me faire, mais j'avais bien conscience quelque part que quelque chose n'était pas normal. Alors que dire? Et puis à qui? Tout le monde admirait Prénat, notamment les adultes, nos parents. Ils étaient tous subjugués par son charisme et il était même invité à nos tables dominicales. Donc quand je me retrouvais dans cette salle avec lui, J'essayais de me convaincre, de me persuader que c'était quelque chose de normal, même si quelque part dans mon cerveau de petit garçon de 10 ans, un interrupteur passait sur off. J'ai grandi sans jamais en parler, mais je me disais je gère, on croit gérer, mais en fait on gère pas du tout. Rien ne s'oublie, évidemment. Moi j'ai le souvenir indélébile de cette effroyable odeur de cigare froid et de transpiration pendant que j'étais collé à son bas-ventre. Et on se dit, c'est normal, et puis on va vivre avec ça. En 1990, j'ai 21 ans, j'ai une petite amie qui a 18 ans. Ma mère, qui est toujours très inquiète pour ma bonne petite éducation bourgeoise, me fait la morale. Elle me dit qu'il faut faire attention, moi ça m'énerve. Et un jour, le ton monte et ça sort, directement ça sort. Et d'une façon assez violente, je lui dis, écoute maman, arrête de me prendre la tête avec ça. Mes premières relations sexuelles, je les ai eues avec Prena, j'avais 10 ans. Sur le coup, je suis surpris moi-même que ces mots sortent comme ça, aussi subitement. Je m'en veux même de lui annoncer ça de manière aussi brutale. Mais en même temps, il y a un immense soulagement. Je me dis, enfin c'est sorti, enfin on va pouvoir parler. Mon soulagement est de très très courte durée, puisque immédiatement elle me répond, tu n'en parles pas, et surtout pas à ton père. Là, c'est un couperet qui tombe, et le couvercle se referme encore plus hermétiquement. Pendant les 14 ans qui suivent, je côtoie mes parents. Je les vois, je vais manger chez eux, on se téléphone. Mais plus personne ne reparle jamais de cette histoire. Et la vie continue et le silence reprend ses droits. Pour moi, les années passent. J'avance dans la vie. Je me marie, je fais l'armée, je travaille, j'ai un enfant. Et en 2004, à 35 ans, tout explose. Je consulte une thérapeute pour une petite fille de 5 ans suite à mon divorce, mais aussi parce que mes parents s'immiscent de manière très très présente dans sa vie et exercent sur elle une surprotection que je trouve anormale. À l'issue de la dernière séance avec cette thérapeute, elle vient me voir, elle me dit « Laurent, vous n'allez pas bien, vous portez quelque chose de lourd, et si vous le souhaitez, moi je suis prêt à vous écouter. » Évidemment, j'accepte. Et là, pour la première fois de ma vie, je vais évoquer ce qui m'est arrivé quand j'étais petit pendant 3 ans. Et pendant plusieurs mois, elle va m'aider à apprivoiser ce passé, à retrouver confiance en moi et surtout à apprendre à ne plus avoir peur. Je romps définitivement avec mes parents. Je me remarie avec une femme extraordinaire qui m'écoute, qui me soutient, qui me comprend. Et là, c'est la vie qui reprend ses droits. En 2011, une opportunité m'est donnée de rencontrer la responsable de la cellule d'écoute des victimes du diocèse de Lyon, qui m'explique que la maison a bien changé et qui me propose de me faire rencontrer le cardinal Barbarin. Pourquoi pas ? Le jour du rendez-vous, pas de Barbarin. Donc c'est son évêque auxiliaire, Thierry Braque de la Perrière, qui me reçoit. Et il est très très informé de ce qui m'amène, puisqu'un enfant a parlé. Et il a ses propres mots. « Nous avons Prena à l'œil, il n'est plus au contact d'enfants. » Moi, je sors de cette entrevue en me disant « C'est bien, ils font bien leur boulot. » En fait, il m'a endormi comme il faut. Début décembre 2015, un ancien scout du groupe Saint-Luc, précisément l'ancien petit enfant de 1991 qui avait parlé, m'apprend qu'en fait, ce prêtre Bernard Prena est resté au contact d'enfants les dernières 24 années. Et en fait, il en a été écarté en 1991 que pendant 6 mois, malgré la promesse du cardinal de l'époque de l'en éloigner définitivement. Et moi, subitement, je prends conscience qu'un évêque m'a regardé droit dans les yeux et m'a sorti un bon gros mensonge. Et ça, c'est la goutte de trop. Le soir même, je rejoins l'équipe de la toute jeune association La Parole Libérée, qui se charge de retrouver et d'aider les anciennes victimes de Prena. Et pour la première fois de ma vie, je mets des mots sur ce qui m'est arrivé, je rédige mon témoignage pour qu'il soit publié sur notre site. Et ce soir-là, j'ai plus peur et j'ai plus honte. Et la honte, elle va changer de camp. Et nous, on va s'y employer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des dizaines de victimes de Préna à porter notre combat contre cette omerta de l'Église sur la place publique. Et aujourd'hui, après 33 ans de silence, moi, j'ai libéré enfin ma parole et plus personne ne me dira jamais de me taire.
Vicage de Rasso, je suis né au Havre, je viens d'un quartier qui s'appelle Cocry-Auville, Cocry, qui est perché sous les hauteurs du Havre. Mon père a travaillé sur les chantiers navals, moi j'habitais au 7e étage d'un HLM, et en contrebas il y avait un petit terrain vague sur lequel je passais tout mon temps à jouer au foot, à dribbler les racines, les merdes de chiens avec tous mes copains. Et évidemment, à cette époque-là, j'ai voulu rentrer dans le club du quartier, qui s'appelait le Havre Cocry-Auville Sportif, et j'ai été recalé. Alors, ils disaient que j'étais peut-être trop petite taille, peut-être trop indien, enfin trop quelque chose, je sais pas trop. Et puis un jour, le père d'un copain qui s'appelait Jean-Noël Bourdoulous m'a pris et les a forcés à m'inscrire. Et évidemment, ils ont été super contents parce que j'étais bien meilleur que les autres. Et puis c'est le début de ce qui va rythmer toute ma vie, c'est-à-dire l'entraînement de la semaine et le match le week-end. À cette époque, on est tous fans du HAC, du Havre Athletic Club, et on va tous voir les matchs à Jules Deschazeaux. Et c'est là que je vais faire mes premiers exploits en jouant un match enlevé de rideau. On perd 2-0 contre Lillebonne. Et il reste 2 minutes à jouer. Et si on fait match nul, on peut se qualifier pour la finale régionale Poussin. Et là, je prends la balle. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai un moment de folie. Je prends la balle, je dribble tout le monde et je marque. Puis je reprends la balle et je redribble tout le monde et je remarque. 2-2. Et j'envoie mon équipe en finale nationale. C'était extraordinaire. Mon club, le HES, en finale. Et évidemment, on commence à parler de moi dans la vie, dans les journaux. Il y a un journal, le Havre Libre et le Havre Presse. Et comme on est fan du HAC, on va tous voir les matchs. Le stade est en contrebas de mon quartier. On y va en famille. Et on se met derrière dans la tribune de derrière le but qui s'appelle le Cop Havre. Et on supporte notre équipe. Nos idoles s'appellent Robert Llorens, Tej Ben Saoula, Abdelkrim Merik Rimo. Et on rêve tous d'être ces gars-là et de prendre leur place un jour. Et évidemment, dans ce club-là, il y a un gars qui s'appelle Pierre Foissac, qui est the recruteur. Et qui peut faire en sorte de vous faire devenir un grand joueur ou pas. Il a vraiment beaucoup de pouvoir, il est important au club. Et un jour, ce gars-là frappe à ma porte parce que le club me veut, parce que le HAC me veut. Pierre Foissac, c'est une sorte de gars qui ressemble à un boxeur complètement raté et un catcheur roumain. Un gars grand, balèze, avec une tête très rouge, des grandes mains. Et en plus de ça, il a un œil de verre. Le gars fait vraiment flipper. Et en plus, ses manières font flipper, sa façon de faire. Et ce gars-là va m'entraîner pendant plusieurs années. On est en 1985 et on joue à l'AS Sport Autonome du Havre et on perd 1-0 à la mi-temps. On joue mal, on est réunis dans le vestiaire et là, Pierre Foissac arrive, nous insulte, nous menace et il attrape un de mes coéquipiers qui s'appelle Yannick Lemire et lui met une patate dans le ventre. Pauvre Lemire qui pleurait, plié en deux. On n'a rien dit, on n'a pas bronché, on est retourné sur le terrain. Évidemment, on était tétanisés, on a très mal joué et on a perdu le match. On n'a rien dit parce que il fallait montrer qu'on était fort, qu'on était capable de résister à ce gars-là et qu'on était finalement incassable ou que j'étais incassable. Et comme ça, j'ai croisé ce gars-là toute ma jeunesse et je l'ai vu insulter, menacer tous mes coéquipiers. Évidemment, moi, il m'a jamais touché. Parce que j'étais le meilleur, j'étais bon. Mais j'ai jamais bronché, j'ai jamais rien dit. Je savais pas ce qui était bien de faire. Et ça a continué comme ça. Et puis un jour, on était au Mans et on perd 1-0 au Mans. On a 16 ans maintenant, on est déjà plus grand et plus costaud. Et évidemment, ses coups sont devenus plus forts et plus puissants. Et on était aligné sur le banc, comme ça. Et il est arrivé, il a mis un coup de poing à un de mes copains qui s'appelait Gilles Fouache, qui était le gardien de but. Et mon pote n'a pas bronché. Puis après, il a mis un coup de poing au deuxième gars qui était à côté, qui s'appelait Akli Daman, qui n'a pas bronché non plus. Puis là, il a mis un autre coup de poing à Christophe Goulon, qui était notre stopper, notre défenseur central, qui lui a enlevé ses chaussures et a dit « Moi, j'arrête, c'est fini ». Il est sorti du vestiaire et on ne l'a plus jamais revu. Évidemment, je me suis dit à ce moment-là que il avait été courageux de faire ça, que peut-être qu'il avait bien fait de résister, de ne pas accepter ce que faisait Pierre Foissac. Puis en même temps, je me suis dit que bah non, en fait, résister à Pierre Foissac, c'était montrer qu'on était fort et incassable. Lui, il est sorti et il n'est pas devenu pro. Moi, je suis devenu pro, d'abord au Havre, et puis en 1998, j'ai été transféré à Lyon. C'était le plus gros transfert des deux clubs. Je suis devenu international, j'avais quitté le Havre et le HAC, mais j'avais pas oublié Pierre Foissac. Il était quand même dans un coin de ma tête, et je me disais qu'un jour je le croiserais, qu'un jour je pourrais lui dire quelque chose, l'insulter, lui dire que c'était un salaud, qu'il avait maltraité mes copains qui étaient musulmans, et il est forcé à bouffer du porc. Je me disais qu'un jour je le croiserais et je me le farcirais. Et puis un jour, ce jour est arrivé, et c'était assez magique. On était à Lens et je jouais avec Lyon contre Lens en Coupe de France. On était en 2001 et on a gagné 1-0. Et je suis rentré dans le vestiaire comme d'habitude et j'étais en train de me déshabiller, profiter de cette victoire. Et puis quelqu'un a ouvert la porte et m'a dit « Quelqu'un veut te voir ?» Alors je lui ai dit « Bah ok ». Puis j'ai vu la vieille tête de Foissac rentrer comme ça. Foissac, t'étais là quoi, avec sa vieille tête toujours, son œil de verre. Et je me suis dit, enfin, te voilà, enfin, je vais pouvoir te faire payer tout ce que tu nous as fait et te faire payer aussi pour tous mes copains et pour tous les copains musulmans aussi que j'avais. Et puis, il m'a dit, Vikash, je peux avoir ton maillot ? Alors, j'étais assis comme ça, puis j'ai marqué un long temps d'arrêt. Je me suis levé, j'ai enlevé mon maillot qui était sale, dégoûtant, plein de boue, puis je lui ai donné. J'ai pris ma serviette, je suis allé me doucher, sans un mot, sans un regard, sans rien. Et puis, à ce moment-là, voilà, j'en avais fini avec Pierre Foissac.
C'est passé il y a 2 ans. C'était le week-end de mon anniversaire, mais pas de chance, je devais travailler ce week-end-là. J'étais d'astreinte à l'hôpital. J'étais interne dans un service de cardiologie. J'étais à ma 10e année d'études de médecine. Et ça commençait à ressembler à quelque chose. J'avais le badge rouge des médecins sur ma blouse. Je commençais à poser des diagnostics, à avoir des responsabilités, à faire des gestes techniques. C'était tout ce que j'avais voulu toujours faire. Quand on est interne d'astreinte le week-end à l'hôpital, on commence très tôt le matin et on fait la visite avec le médecin-chef. Et si tout se passe bien, on peut espérer partir en milieu de journée. Évidemment, ce samedi matin-là, c'est même pas la peine d'y penser. Le service est surchargé. Il y a plusieurs malades qui se sont aggravés et que j'ai transférés en réanimation. Et donc, j'ai passé du temps à expliquer aux familles ce qui s'était passé et je devais les rassurer. Et puis, il y a le malade de la chambre 702. C'est un homme de 60 ans, il est gentil, calme, il a confiance. Il est hospitalisé parce qu'il a eu des douleurs dans la poitrine. On lui a fait passer un scanner et en a découvert une masse dans le médiastin. Le médiastin, c'est là, c'est entre les deux poumons, le cœur et la trachée. Cette masse, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est probablement une tumeur, quelque chose de grave. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'urgent. Il va bien, il n'a même pas besoin d'oxygène, il n'a pas perdu de poids. C'est un monsieur qui est diabétique depuis longtemps, mais il est stable, il n'a pas besoin d'insuline. En fait, de l'extérieur, il n'a même pas l'air d'être malade. Ce samedi-là, il dit juste qu'il a des douleurs dans la poitrine passagère. Je lui fais réaliser plusieurs électrocardiogrammes, mais ils sont toujours normaux. Et puis, dans l'après-midi, l'infirmière me signale qu'il a de la fièvre. Alors, je retourne l'examiner. Je ne vois rien d'évident qui puisse expliquer cette infection. Je réalise une prise de sang pour savoir d'où provient la fièvre. Et puis, je lui prescris des antibiotiques. Enfin, je dis plutôt à l'infirmière, on lui donnera de l'augmentrin, 1 g x 3. Et puis, je suis accaparée par un autre patient et j'oublie de l'écrire sur le cahier de prescription. Il est 17h, je viens de terminer ma journée, je suis épuisée. Je rentre chez moi. Le lendemain, c'est dimanche, j'ai 28 ans. Et j'ai promis à ma famille de rentrer pour déjeuner. Donc, j'arrive tôt le matin à l'hôpital, on commence la visite. Et l'équipe de nuit me signale que le patient de la 702 a eu de la fièvre. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai oublié de prescrire les antibiotiques. Je l'examine et quand je rentre dans sa chambre, il se lève pour me serrer la main. Dans mon service, où la plupart des patients sont sous assistance respiratoire, cachectiques ou prostrés dans leur lit, un malade qui se lève pour vous serrer la main, c'est quand même plutôt rassurant. Et donc, je vois les résultats de la prise de sang. Il a bel et bien une infection, mais bon, ça n'a pas l'air d'aller si mal. Et je poursuis mon travail. Et je fais, malgré que le service soit surchargé, j'arrive à voir mes 20 malades, ils sont stables. Et vers 13h, victoire, je file. Je peux enfin partir chez mes parents et ouvrir mes cadeaux. J'arrive chez mes parents, c'est la fête. Je souffle mes 28 bougies, tout le monde chante. Et je m'apprête à couper le gâteau quand mon téléphone sonne. C'est l'interne de garde de réanimation. Il est affolé. Ton malade de la 702, là, il répond plus. Il est là pourquoi ? Ou juste je le réanime ou je le réanime pas ? Et moi, je panique. « Mais bien sûr que tu le réanimes, et tu fais tout pour ce que tout, tu le réanimes !» Et je raccroche. Et là, je reste scotchée. Le temps s'arrête, j'ai encore la pelle à gâteau dans la main, et je me refais le film 100 fois. L'infection dans le sang, la masse dans le médiastin, les douleurs dans la poitrine, le diabète déséquilibré, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas cherché plus, pourquoi je n'ai pas appelé un infectiologue, pourquoi je n'ai pas fait une prise de sang plus détaillée, le potassium, la glycémie. Et les antibiotiques que j'ai oubliés hier, c'est quand même pas ça qui a pu changer la donne si vite. Ça tourbillonne dans ma tête. Mes parents débarrassent la table dans le silence. La fête est foutue. Et moi, j'essaye d'appeler l'hôpital. J'appelle, personne ne décroche. Ça dure 1 heure. C'est l'heure la plus longue de ma vie. Et finalement, quelqu'un décroche. Le patient est mort. Il est mort alors que sa famille venait d'arriver pour lui rendre visite. Sa famille attendait derrière la porte qu'on essaie de le réanimer. Le lendemain matin, je suis allée à l'hôpital, je suis allée voir la famille. Je n'avais rien de très convaincant à leur expliquer, juste que je n'avais rien vu venir, que je ne m'attendais pas à une mort aussi brutale. Peut-être il n'aurait pas dû mourir, en tout cas pas de cette façon, pas aussi vite. Je me souviens qu'ils ont été compréhensifs et je les remercie. Encore aujourd'hui, je ne sais pas bien de quoi ce patient est mort. Conjonction de facteurs médicaux, des responsabilités multiples. Tout ce que je sais, c'est que ce week-end-là, je n'ai pas tout fait. Je sais que j'aurais dû chercher plus, me poser plus de questions. Ça l'aurait sauvé. Et au lieu de ça, je suis allée fêter mon anniversaire chez mes parents. Depuis que le patient est mort, j'ai commencé à perdre le sommeil. J'ai fait des cauchemars. Je ne dormais plus correctement. Mes collègues, ma famille essayaient de me rassurer, mais rien ne me soulageait. J'étais en train de prendre conscience que je n'étais pas infaillible, que je pouvais faire des erreurs et que si je continuais mon métier de médecin, je risquais à nouveau de vivre ce type de situation terrible et ça me semblait insurmontable. J'ai pensé arrêter mes études de médecine. Les semaines ont passé et un jour, alors que je pensais encore à ce patient mort brutalement dans mon service, je me suis rendu compte que j'avais oublié son nom. Que j'avais effacé son nom complètement de ma mémoire. J'étais surprise. Ça voulait dire que j'allais mieux, que j'étais en train de me remettre petit à petit de cette histoire. Et je trouvais ça presque choquant. mais je me souvenais très bien de son visage, du numéro de la chambre. Et petit à petit, il est devenu un peu comme un fantôme. Il est toujours là avec moi. Il ne me quittera jamais et je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, je travaille toujours à l'hôpital. Je soigne d'autres gens. Il y aura peut-être d'autres fantômes, mais j'ai choisi de continuer.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre et la retransmission des pieds sur scène, des histoires vraies qui ont été racontées sur scène ce dimanche dans le cadre du week-end Imagine, de la création et des idées, proposé par France Culture et le Centre Pompidou. Trois histoires racontées par Laurent Duverger, Vikash Dorasso et Céline Le Danois, des histoires choisies, recueillies et mises en forme par Delphine Saltel. L'émission était réalisée par Eric Lancien et Alexandra Malka. Merci au collectif We Report à Lyon, à Mathieu Peuris, à Mathieu Martinière, à Daphné Castaldi, à l'association La Parole Libérée, à Marine Turki et à Martine Rusniewski. Merci également à Juliette Eman et à Camille Garin. Des réactions, des commentaires, des suggestions, c'est sur notre site, à la page de France Culture, où vous pourrez voir des retransmissions vidéo de ces histoires, du moins pour deux d'entre elles, pour la première et la deuxième. Vous pouvez également partager nos émissions et ces vidéos sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter, une page Facebook. On vous y attend avec impatience.